Lettres romandes, un podcast littéraire et irrégulier proposé par Julien Sansonnens. Huitième épisode, je reçois aujourd'hui l'écrivain et journaliste Jean-François Fournier autour de la création de la revue littéraire LPBP Les plus belles plumes. Jean-François Fournier, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, de vous décrire avec vos propres mots ?
Alors, écrivain, journaliste, le tout depuis trois décennies. J'ai écrit une vingtaine de bouquins, j'ai dirigé plusieurs journaux comme Le Nouvelliste, la revue Automobile. Mmh. Et puis aujourd'hui, je suis écrivain et communicateur indépendant.
Alors j'ai vu sur votre page Wikipédia, effectivement, vous écrivez depuis quelques années maintenant, des styles assez différents. Vous avez par exemple fait une biographie ou une ou plusieurs.
Oui, j'ai toujours été un peu un touche-à-tout, parce que j'aime toutes les formes d'écriture. J'ai commencé à écrire dans les journaux avec des petites collaborations, j'avais 14-15 ans, j'ai fait mes premiers concours littéraires, j'avais 15-16 ans, et puis dès l'université, je me suis inscrit à l'Institut de journalisme et de communication sociale de l'Université de Fribourg, tout en faisant de la philosophie et de la théologie, mais avec une seule idée en tête, c'est bifurquer dans la pratique du journalisme dès que c'était possible. Et quand j'ai fini par dénicher un stage, j'ai immédiatement quitté l'université à l'époque pour rejoindre le service des sports de Feu la Suisse à Genève. Et puis, ça fait 34 ans que j'exerce dans les médias et dans l'écriture aussi, ce qui fait que j'ai sauté d'un galet à l'autre pour traverser la rivière. Ça a été des biographies, ça a été des pièces de théâtre, ça a été des romans, ça a été de la poésie, ça a été des essais. Il y a vraiment eu à peu près tout ce qu'on peut faire en matière littéraire.
Oui, tout à fait. 34 ans dans le journalisme, on va en parler. On va parler aussi de la place de la culture dans les médias, dans la presse écrite en particulier. Mais avant ça, je vous ai proposé de participer à ce podcast à propos de votre projet Les plus belles plumes, LPBP, une revue littéraire que vous lancez tout récemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette idée, ce projet ?
Alors l'idée est très simple, c'est une idée que nous avons eue avec ma compagne Christelle Magarotto, qui est également écrivain et journaliste, mais qui est en plus peintre. Et on se faisait la même remarque, soit comme auteur, soit comme journaliste, que les rubriques culturelles des médias dits traditionnels se réduisaient vraiment comme une peau de chagrin. Je sais que c'est une thématique qui a beaucoup été abordée par les écrivains, qui l'est encore de nos jours sur les réseaux sociaux, avec les nouvelles décisions de la RTS de diminuer les contenus littéraires de plusieurs de ces émissions, voire carrément de les supprimer. Et on s'est dit, c'était une idée qui nous était assez insupportable, parce que on le sait, dans ce milieu, à part 25 auteurs français et puis une centaine d'écrivains anglo-saxons, les auteurs professionnels qui vivent aisément de leurs plumes ne sont pas légion. Par conséquent, ces émissions culturelles, ces rubriques culturelles dans les médias traditionnels, c'était un peu en quelque sorte un des rares salaires des auteurs, aujourd'hui même encore, en ce début de 21e siècle. Et on s'est dit, si ça, ça fout le camp, il va y avoir un trou assez terrible. Les écrivains, les auteurs vont se retrouver encore plus isolés. Et on s'est fait un brainstorming à la montagne et on s'est dit, mais il y a une place à prendre, il y a un nouveau média à imaginer, parce que comme journaliste, nous, on partageait la réflexion que les heures du papier étaient comptées. Moi, personnellement, ça fait même 10 ans que je suis convaincu que les heures du papier sont comptées. Et donc, on a choisi la forme numérique avec une idée, justement, d'offrir aux auteurs des traitements auxquels ils n'ont plus droit dans la presse aujourd'hui. Mmh. Parce que dans la presse, quand vous obtenez 25 ou 30 lignes aujourd'hui sur votre dernier roman ou sur votre dernier essai ou votre dernière biographie, avec une petite photo de vous ou de la cover, c'est à peu près le maximum que vous pouvez obtenir. Mmh. Même dans les très grands journaux, si on regarde Le Monde, Libé, Le Figaro littéraire, j'en parlais récemment avec Bernard Pivot, qu'on a interviewé, et qui me disait, lui, il est toujours critique aujourd'hui, régulièrement, toutes les semaines, dans le Journal du Dimanche, à Paris. Et Pivot me disait, mais les textes sur les auteurs se réduisent comme une peau de chagrin. Ils n'ont plus d'espace pour expliquer en détail leur projet littéraire, mmh. leur regard sur le monde, pour partager avec leurs lecteurs. Et donc, notre idée était d'offrir des plages avec vraiment des portraits psychologiques fouillés, des grands entretiens de l'ordre de 15-20 000 signes, mmh. d'offrir aussi des textes originaux, parce que les éditeurs en publient de moins en moins, publient beaucoup parfois même de très bons produits littéraires, mais c'est de plus en plus des produits calibrés sur les thèmes de société, etc. Donc on voulait offrir cette plateforme avec des textes originaux, des grands entretiens, si possible un peu moins politiquement corrects, un peu moins calibrés que ce qui existait dans la presse.
Alors on reviendra sur la ligne éditoriale peut-être un petit peu plus tard, mais c'est vrai que votre projet il est finalement concomitant avec les annonces de la RTS, d'une restructuration de la culture sur les ondes, sur les antennes. Il y a eu passablement de débats et de discussions, notamment sur les réseaux sociaux, sur cette restructuration. La place d'Espace 2 aussi, où la littérature était peut-être pas assez bien servie, mais elle l'était tout de même, et les émissions ont plutôt tendance à disparaître au profit de, je crois, la nouvelle ligne d'Espace 2, c'est bien-être et musique, quelque chose comme ça. C'est un petit peu étonnant, la notion de bien-être, un petit peu étonnante pour une chaîne comme Espace 2. C'était des réflexions qu'on a pu se faire aussi au moment de la disparition de l'hebdo, finalement. Ces réflexions, on se les fait malheureusement depuis plusieurs années.
Bah oui, il se trouve que à l'époque, moi j'étais chef d'édition à l'Hebdo, à l'époque où l'Hebdo avait lancé le partenariat du supplément livre avec les éditions Payot et les librairies Payot. Il y avait traditionnellement dans l'Hebdo une forte rubrique littéraire.
Tout à fait.
Le contenu des livres était toujours traité, que ça soit en littérature, en société, en politique.
Oui, ça a été une perte majeure, l'Hebdo, pour la sphère littéraire en Suisse romande. Oui, tout à fait.
Alors clairement, je suis 150% d'accord avec vous. Et on constate que même dans un journal de qualité comme Le Temps, la place du littéraire rétrécit. Et surtout, ce qui est préoccupant, c'est quand même une certaine pensée mainstream, parce que, alors évidemment, j'en suis très heureux pour lui, mais quand il y a la sortie d'un Joël Dicker, il n'y a absolument plus de place pour le reste de l'actualité. Mmh. Ça n'existe pas. Il y a un grand auteur roman, mon ami Jean-Michel Olivier, qui était prix inter alliés pour L'Amour Nègre en 2010.
Qu'on salue s'il nous écoute.
Il a dit sur les réseaux sociaux il avait fait une petite remarque humoristique à l'annonce de la sortie du Dicker avant qu'elle soit repoussée pour cause de pandémie, en disant « Chers auteurs, retenez bien cette date, surtout ne sortez pas vos bouquins à cette période-là ». Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias, il faut bien le reconnaître, ils ciblent quelques locomotives. Il y a la sortie du Houellebecq, il y a la sortie du Nothomb, il y a la sortie du Dicker. Dans le populaire, il y a éventuellement le dernier Stephen King ou le dernier J.K. Rowling. Et puis, la littérature, qu'elle soit blanche ou même polar, la littérature plus générale, ce qui fait le fond de commerce de la littérature, trouve de moins en moins de place.
Alors justement, on va venir à votre ligne éditoriale. Vous parlez d'entretien psychologique, de portraits d'auteurs. À quoi ressemble votre revue ? J'ai pas encore eu la chance de l'avoir dans les mains. Est-ce qu'il s'agira d'une revue qui mettra plutôt l'accent sur la création littéraire, avec des participations, peut-être d'écrivains romans, d'écrivains internationaux, francophones ? Est-ce que vous partagerez votre revue entre fiction, création et portrait ou documents d'analyse sur l'état de la littérature en Suisse romande ou ailleurs ? À quoi va ressembler cette revue finalement ?
Alors le projet de départ, très clairement, c'était un projet qui partait d'un constat positif, parce que moi j'ai toujours fait partie des gens qui refusaient une certaine schadenfreude qu'on avait en Suisse romande en disant « Oh, nous sommes les lointains provinciaux qui n'avons pas accès au Saint-Dessin germano-pratin ». Moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait des productions de très très bonne qualité chez les éditeurs romands. Alors après, je suis aussi d'avis, comme certains suiveurs patentés ou experts de la littérature romande, je pense qu'aujourd'hui on publie trop. Alors c'est effectivement difficile là-dedans après de faire des tris, mais je pense qu'il y a quand même une vraie qualité en Suisse romande. Et notre idée, très clairement, c'était de proposer une plateforme avec un mélange très équilibré où on traite, où on donne la parole avec la même longueur, avec la même qualité de questions et d'entretien, à des auteurs romans et à des auteurs parisiens dits vedettes ou confirmés, pour faire voisiner tout ce monde-là, pour faire tomber un peu les barrières. L'idée, c'était vraiment de dire, c'est une plateforme qui n'est pas une plateforme provinciale, c'est une plateforme qui est basée sur la qualité du travail. Si un écrivain roman fait un travail de qualité, il mérite ses 15 000 signes d'entretien ou ses 10 ou 12 000 signes de portraits un peu fouillés. Il mérite la publication d'un texte original pour lequel il n'a pas trouvé d'éditeur. Donc c'était vraiment d'abattre un peu ces cloisons, de les mélanger, voire même, pourquoi pas, parfois de les faire se rencontrer. Donc c'était vraiment quelque chose d'ouvert et sans barrière.
On publie trop, dites-vous. Est-ce que ce n'est pas justement aussi le rôle d'une revue littéraire que de faire un tri, finalement, de proposer sa vision, sa propre vision de ce qu'est la littérature, de ce que devrait être la littérature, puisqu'il y a ce paradoxe qu'on constate, qui est finalement qu'on publie de plus en plus et qu'il y a de moins en moins de lieux de critique, c'est-à-dire que le public, peut-être, doit aussi, on doit, sans aucun paternalisme, mais peut-être qu'on doit lui montrer, lui suggérer une littérature qui est peut-être d'une qualité un peu meilleure qu'une autre. C'est ça qui est dommage aussi et qui est décevant dans cette perte d'espace pour la littérature, c'est finalement cette fonction de tri. On a l'impression que tout se vaut, que tout est égal, et en littérature comme ailleurs, ça n'est certainement pas le cas.
Non, alors je partage tout à fait votre analyse. On assume parfaitement la fonction critique, puisque notre rubrique critique, on l'a même baptisée d'un nom grec, qui est l'Aristarque, qui est une critique par essence même exigeante. Donc, effectivement, on essaye de ne prendre que des contributions qui nous paraissent d'un niveau suffisant pour passer toutes les frontières, toutes les barrières. Oui, on assume ce choix tout à fait. Mais il n'est pas trop difficile à faire, parce que cette matière-là, elle existe chez nous. Simplement, effectivement, comme la presse suisse en général n'en parle plus, il faut essayer de la faire clignoter, de la faire s'illuminer, de la faire sortir un peu du haut. Moi, je vous cite deux exemples. C'est ces deux portraits, d'ailleurs, qu'on a publiés depuis le lancement des Plus Belles Plumes. C'est Adrien Gigax, qui vient de sortir chez Grasset un des premiers bouquins que j'ai lu sur les EMS ou les EHPAD, comme on appelle ça en France, qui parle des derniers petits bonheurs et des dernières grandes interrogations qu'on peut avoir au soir de sa vie, ou le dernier polar d'Yves Godin chez Héloïse d'Ormesson. Ben voilà deux auteurs pas tout à fait débutant, mais commençant, en train de se construire dans la littérature romande, qui ont décroché deux bons éditeurs parisiens, mais qui finalement, chez nous, n'ont pas eu droit à une couverture de presse exceptionnelle, parce que il y a tout simplement plus de place dans nos médias.
Oui, on est évidemment un peu triste pour Gygax qui sort son livre, qui a sorti son livre évidemment au très mauvais moment, puisque le peu qui restait de place pour la littérature était complètement victime du coronavirus, comme d'ailleurs la plupart des autres actualités et des autres rubriques.
Ah ben on en a été victime nous-mêmes, puisque le grand quotidien cantonal valaisan, le Nouvelliste, devait nous faire une couverture pour la sortie de notre magazine en ligne. Or, une des premières décisions qu'ils ont prises en période de pandémie, c'est de supprimer les pages littéraires. Ils nous ont promis qu'ils allaient les réintroduire prochainement. Mais en même temps, voilà, la culture, en période où on fait des plus petits journaux à moyens réduits, c'est systématiquement, on commence par la culture.
Oui.
C'est un grand classique, ça je l'ai vu en trois décennies de journalisme, c'est d'abord la culture, après les sports, et puis la politique, l'économie, on y touche très rarement, ça vient beaucoup plus tard.
Oui, tout à fait, ça en dit long effectivement sur la place symbolique de la culture dans les quotidiens. C'est vrai que c'est très souvent la première rubrique à sauter lorsque l'actualité est un petit peu chargée. Alors Jean-François Fournier, est-ce que c'est bien raisonnable finalement de lancer ce type de projet aujourd'hui? Je vous le demande de manière un petit peu provocatrice, mais finalement, les rubriques littéraires en Suisse, elles sont relativement nombreuses. En tout cas, il y a plusieurs projets qui sont sortis ces derniers temps. Je pense à la cinquième saison. Je pense à la revue littéraire L'Épître aussi, qui a été sortie il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous avez de la place, puisqu'on sait bien que les gens lisent peut-être de moins en moins, c'est en tout cas ce qu'on entend. Est-ce que vous allez trouver votre public, Jean-François Fournier?
Notre pari, c'était de le faire avec un ton qui était différent. Moi, je suis lecteur de revues littéraires. Traditionnellement, depuis plusieurs siècles même, les revues littéraires en langue française sont nombreuses, sont généralement très bien produites avec des contenus intéressants. Et moi, je pense que c'est une niche dans laquelle peuvent cohabiter plusieurs produits de type tout à fait différent. Nous, on a choisi un ton qu'on a voulu un peu jeune et provocateur, parce que c'est vrai que quand on fait des recherches marketing, on nous dit tout le temps « les lecteurs aujourd'hui, c'est 50 ans et plus, voire 60 ans et plus ». Les premiers chiffres qu'on a de fréquentation de notre site nous donnent à peu près 40% entre 25 et 45 ans. Donc ça laisse assez optimiste. Nous, on visait aussi cet aspect-là, le renouvellement des lecteurs. Évidemment que les lecteurs seniors sont un gros bataillon très important pour les éditeurs.
Les femmes aussi, les lecteurs sont surtout des lectrices.
Alors, les lecteurs sont surtout des lectrices, chez nous, par exemple, on est pour l'instant à 60-40. Moi, je m'attendais presque, d'après ce que disaient les éditeurs professionnels, à un pourcentage féminin nettement supérieur. Je trouve que 60-40, c'est assez bien balancé. Ça veut dire que si on a un ton peut-être parfois un petit peu plus polémique, un petit peu plus mordant... je pense que les hommes qui sont peut-être un peu plus dans l'adrénaline, la chose qui déménage un peu combatif comme ça de par leur caractère, je pense que s'ils trouvent une littérature qui entre guillemets déménage un petit peu, peut-être qu'ils feront l'effort de lire davantage. Oui. C'est la manière qu'on a de s'adresser aux gens qui fait beaucoup.
Je crois me souvenir, vous avez participé à la fondation de l'Antipresse, un média alternatif. Est-ce qu'on retrouvera un petit peu de ce ton un petit peu, je dirais, non politiquement correct, on va dire ça comme ça?
Alors, non politiquement correct, ça c'est sûr. Je regrette absolument pas l'aventure de l'Antipresse que j'ai cofondée à l'époque avec l'éditeur écrivain Slobodan Despot. Mais alors, c'est pas du tout les mêmes options politiques, parce que nous, on est 100% littérature.
Mais dans le ton. Dans le ton, il y a une différence, il y a une fraîcheur, disons. Voilà, dans l'Antipresse, c'est vrai qu'on peut apprécier ou non le positionnement politique, mais ce sont des analyses et un ton qu'on ne retrouve pas forcément dans les médias grand public, c'est peu de le dire.
Oui, moi je ne vous cache pas d'ailleurs que je me suis distancé de l'Antipresse parce que le ton politique, quelque part, correspondait pas à mon feeling à moi, qui est beaucoup plus large et décalé, qu'on peut pas vraiment raccrocher à un parti politique, etc. Moi, quand je m'exprime comme auteur ou comme journaliste, dans le journalisme, j'ai pas envie d'avoir une quelconque forme de carcan. Je veux pas de fil à la patte.
Bien sûr.
Mais dans la démarche, dans la volonté de dire un certain nombre de choses que ne disent pas les autres, alors de ce point de vue-là, oui, il y aura y a évidemment des similitudes. Dans ce qu'on a fait pour l'instant, dans les plus belles plumes, on a toujours essayé de pousser nos interlocuteurs dans leur dernier retranchement pour leur faire dire des choses intéressantes. Mmh. On a eu en entretien Didier Decoin, le président de l'Académie Goncourt, qui était Goncourt lui-même d'ailleurs en 77 pour John Lanfer, et on lui a quand même fait dire, mais il l'assume complètement et il l'a dit avec plaisir parce qu'il a rarement l'occasion de s'expliquer en détail. Il nous a expliqué par exemple que le Goncourt ne récompensait pratiquement jamais le meilleur bouquin. Mmh, il nous a donné les clés du fonctionnement interne du Goncourt et d'une manière extrêmement critique. Il n'aurait pas dit ça dans le Figaro littéraire ou il n'aurait pas dit ça dans le monde des livres.
Tout à fait.
Donc, c'est une illustration un petit peu du type de démarche et du type de discussion qu'on essaye d'avoir avec les personnalités qu'on interroge.
Mmh, absolument. Au niveau de votre modèle d'affaires, comment fonctionne la revue ? Alors, d'abord, est-ce que c'est une revue virtuelle ou une revue papier ? Est-ce qu'elle est vendue ? Est-ce que certains articles sont proposés en contenu libre ? Et puis, est-ce que vous avez des mécènes, des donateurs ? Comment fonctionne votre modèle d'affaires ?
Alors, le modèle d'affaires, il est très simple. On n'invente jamais rien en matière numérique. Il faut un équilibre. Il faut assurer du passage sur le site. Et quand le produit est 100% numérique, ce qui est notre cas, il n'y a pas de papier pour l'instant. Même si, dans un coin de notre tête, on réfléchit aussi à éditer certains auteurs qui ne pourraient pas être édités, mais qui nous offriraient des contenus originaux, etc. Donc, on n'a pas coupé par principe tout lien avec le papier, mais le produit lui-même est 100% numérique. Il est sur abonnement, il a des contenus gratuits, et c'est un peu l'équilibre de ces deux choses. Évidemment que dans le monde culturel d'aujourd'hui, le mécénat ne court pas les rues. On n'a pas de soutien officiel de la culture publique. Par contre, on a une aide extrêmement appréciée de la Fondation Jan Michalski, qui soutient notre projet, ce qui est pour nous une grande fierté, et puis qui nous permet d'avancer de manière sereine.
L'État du Valais, je crois, a aussi revu sa politique de soutien à la culture, à la littérature en particulier. Vous ne bénéficiez pas d'aide du canton du Valais ?
Non, parce que l'aide du canton du Valais est, d'une manière générale, en matière culturelle, l'État du Valais a décidé de constituer des plateformes professionnelles pour tous les pans de sa culture. Il y a théâtre pro, il y a musique pro, il y a littérature pro, et donc il détermine des critères. Alors il faut avoir été, pour bénéficier d'une aide de l'État du Valais, il faut avoir été déjà publié, il faut avoir, si on est un organisateur, il faut pouvoir montrer qu'on rémunère les auteurs si on veut que sa manifestation ou son projet soit soutenu. Donc il y a toute une série de conditions qui fait que c'est extrêmement difficile, même par exemple pour l'Association Valaisanne des écrivains, c'est extrêmement difficile de trouver des subventions et des aides parce que la culture du Valais privilégie Mais bah, on a ça à l'Office fédéral de la culture aussi, au niveau national, privilégie les secteurs professionnels. Et le problème, c'est que toute la littérature en Suisse, qu'elle soit suisse alémanique ou suisse romande, il y a quand même beaucoup de gens qui sont évidemment obligés d'avoir une profession pratiquement à plein temps, ou en tout cas 60, 70, 80% pour payer les factures à la fin du mois, et chez qui, si l'écriture est la chose la plus importante dans la vie, en termes horaires et en termes rémunérateurs, c'est une toute petite part.
Bien entendu.
Et, bah, ça, personnellement, alors je déplore ce modèle. Hein. Je ne pense pas que c'est une solution de se concentrer sur les plateformes professionnelles. Parce que il y a toujours eu des auteurs dans l'histoire, des auteurs extraordinaires qui avaient une profession à côté et qui l'exerçaient brillamment, avec enthousiasme, et ce qui ne les empêchait pas d'écrire des ouvrages majeurs. Oui. Donc je pense que c'est dommage de se concentrer uniquement sur les professionnels déjà reconnus.
Tout à fait. J'ai l'intuition qu'un certain nombre d'écrivains sont justement de bons écrivains parce qu'ils ont ce contact finalement avec le réel, avec la difficulté, que ce soit du salariat. Je veux dire, peut-être le fait d'être confronté au réel et de devoir travailler à côté de l'écriture, j'ai l'impression que ça a plutôt tendance à nourrir sa plume. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je partage tout à fait cette analyse. Pour moi, ça, l'écriture n'a jamais été... Évidemment, alors... Menteur, l'écrivain qui vous dira qu'il n'a pas dans un coin de sa tête le rêve de vivre de sa plume.
Bien sûr.
Mais il y a des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'écrivains autour de la planète qui ont créé une œuvre importante, originale, avec un style et une personnalité qui va rester dans l'histoire, tout en ayant suivi un cursus professionnel par ailleurs. Et je pense que le fantasme de l'écrivain à 100%, je vois pas son utilité. Oui, c'est un fantasme, c'est toujours motivant. Mais disons, je pense pas que c'est une condition sine qua non pour être un bon écrivain. J'ai peut-être même croisé dans ma vie plus de bons écrivains qui avaient un job que de bons écrivains qui se débrouillaient comme ils pouvaient avec 3 francs 6 sous.
Oui, on a quelques exemples de grands bourgeois et de grandes bourgeoises de l'écriture qui pratiquent ça sans avoir besoin de travailler. Je vais pas citer quelques noms, mais ça donne pas forcément toujours la meilleure littérature. Jean-François Fournier, une dernière question sur votre revue. Êtes-vous ouvert à des contributions, à des collaborations externes? Est-ce qu'on peut vous soumettre des textes, des critiques, des analyses?
Alors oui, on est absolument ouvert, j'allais dire, aux quatre vents. Ce qui est très important de préciser, c'est que dans le concept de départ, notre volonté première était évidemment, par rapport à la situation qu'on a évoquée au début de cet entretien, les auteurs chez nous, dans nos frontières confédérales et romandes, ils ne sont pas souvent rémunérés. La plupart du temps, je veux dire, on les défraye même pas quand ils font des dédicaces, quand ils participent à des manifestations littéraires. Ça commence un petit peu à changer, mais je dirais qu'on est encore loin d'une situation idéale. Donc nous, on s'est fixé comme objectif assez rapide. Évidemment, ce n'est pas possible en phase de lancement parce qu'on n'a pas le budget qui va avec. Mais notre premier objectif est de pouvoir rémunérer nos contributeurs. Mmh. Pour l'instant, peut-être 2 ou 3 contributeurs qui sont rémunérés, mais on n'arrive pas encore à faire mieux. Ça dépend, évidemment. C'est ce qu'on explique à nos abonnés. Qu'en devenant abonnés, ils deviennent mécènes et ils permettent aux auteurs aussi d'engranger quelques précieux petits billets auxquels ils n'auraient pas droit dans d'autres circonstances. Donc oui, bien sûr, on peut soumettre des choses et on essayera, dès que possible, dès que le budget le permettra, on essayera de rétribuer tout le monde. Mmh. C'est ça l'objectif.
On est assez proche de bon pour la tête, finalement, en tout cas sur ce point-là.
Oui, à part qui sont généralistes, politiques, économiques.
Tout à fait, mais ils ont cette volonté aussi d'une certaine professionnalisation et de rémunérer les contributeurs.
Oui, alors ça, mais je pense que si on demande un travail de qualité aux gens, je pense que la moindre des choses, c'est d'essayer de les rémunérer, même si c'est. Dans le journalisme, on a connu ça. Hein, je veux dire, il y a pas si longtemps, on payait des journées de travail, on rétribuait même la télévision. Il y a une époque où elle rétribuait ses invités. Pour la petite histoire. Comme jeune journaliste, j'ai travaillé longtemps dans l'équipe du TG Midi de Jean-Philippe Rapp. Et je me rappelle par exemple mon maître en littérature, Georges Haldas, qui était quelqu'un qui vivait vraiment de sa plume, mais qui avait très peu de moyens financiers. Il arrivait parfois que Georges était tellement à court de ressources que on inventait un thème littéraire pour l'inviter au TG Midi parce qu'il touchait un cachet d'invité.
Ouais, tout à fait.
Donc cette volonté de rétribuer les auteurs, elle date pas d'aujourd'hui, mais je pense qu'elle est très importante. Si de temps en temps les auteurs peuvent avoir une petite contribution, je pense que parfois ça peut changer beaucoup de choses dans leur vie, dans leur motivation et dans leur plaisir d'écrire.
Jean-François Fournier, merci de nous avoir accordé cet entretien. Les plus belles plumes LPBP, comment on vous trouve sur les réseaux sociaux, sur le web?
Alors, sur le web, lesplusbellesplumes.com, et puis sur les réseaux sociaux, on a un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, un compte LinkedIn, on est partout.
Longue vie aux plus belles plumes, merci et tout de bon à vous.
Merci Julien, bon vent à vous.
C'était Lettres romandes, un podcast littéraire proposé par Julien Sansonnance. Retrouvez tous nos épisodes et abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast et sur lettresromandes.ch. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre un pouce bleu sur Facebook.